Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements.
Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple, parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes, de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Micro ouvert sur Marmite FM 88.4. Nous poursuivons notre série d'émissions sur les enjeux du plateau de Saclay et notamment aujourd'hui l'impact de l'urbanisation du plateau sur les circuits courts. On parlera de plusieurs thématiques que vous n'avez peut-être jamais entendues. Résilience, circuits courts d'ailleurs qu'on a déjà mentionné, que vous ne connaissez peut-être pas dans le détail, chères auditrices, auditeurs. On parlera de... bien sûr, d'alimentation, avec nos deux témoignages de deux habitantes qui sont fortement impliquées dans la vie associative et qui ont vécu l'évolution du plateau de Saclay et de Saint-Quentin-en-Yvelines en général depuis le début des années 80. Nos deux invités, Martine Bonnet d'abord, bonjour.
Bonjour.
Inny Montaigne, donc citoyenne engagée et présidente de l'association Regain Nature que vous avez cofondée. Vous êtes responsable, vous étiez en tout cas responsable d'établissements scolaires et vous êtes beaucoup intéressé à l'alimentation dans les cantines scolaires, notamment avec l'introduction du bio dans les restaurants scolaires. On en parlera dans quelques instants. Vous êtes également, d'ailleurs je n'ai pas dit, membre de la MAP des jardins de Cérès, donc qui se trouve sur le plateau de Saclay, donc qui est à Villiers-le-Bac. Marie-Paul Vigier, bonjour.
Oui, bonjour.
Également saint-quentinoise, vous êtes à Guyancourt, également une citoyenne engagée, vous me corrigez si je dis une bêtise, hein, mesdames, également une citoyenne engagée dans les circuits courts. Vous nous direz d'ailleurs tout à l'heure ce qu'est un circuit court et en quoi les grands projets d'urbanisation du plateau de Saclay sont un danger pour ces circuits courts. Les conséquences pour les Saint-Quentinoises et pour les Saint-Quentinois. Et vous êtes également membre du conseil d'administration de la MAP, donc des Jardins de Cérès. On va commencer avec une petite partie autobiographique pour en savoir un petit peu plus sur vous et notamment sur votre engagement, citoyen, votre engagement personnel. On va commencer avec vous, Martine Bonnet. Vous êtes arrivée à Saint-Quentin en Yvelines en 1987. Alors, vous n'étiez pas loin. Vous m'avez dit que vous étiez déjà du côté de Saint-Cyr-l'École depuis 1961. Alors, comment est née chez vous cette sensibilité, en tout cas, et cet engagement sur les problématiques du monde agricole, de l'alimentation, de la résilience, qu'on va définir tout à l'heure. Mais voilà, comment est né cet engagement chez vous?
Alors, je veux d'abord saluer tous nos concitoyens et concitoyennes, parce que c'est important pour moi que tout le monde soit associé dans cette démarche. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cet entretien aujourd'hui. Alors, je pense avoir toujours eu une sensibilité à la nature très, très forte par un contact, pas permanent parce que j'étais urbaine, mais très, très, très fréquent. Et même, j'ai dû, à un moment de ma vie, par mes études, m'éloigner d'elle et vivre dans les centres urbains. Et quand je suis revenue... sur un territoire plus rural, un petit peu comme Saint-Quentin. J'étais en responsabilité d'établissement, en effet, comme vous l'avez mentionné. Et c'est par la partie responsabilité dans la restauration scolaire, donc une restauration collective. Donc j'ai été amenée à être extrêmement vigilante sur les menus, sur les ingrédients, sur les approvisionnements. Du coup, j'ai retrouvé ma sensibilité à d'où ça vient, ce que je mets dans les assiettes des enfants. Est-ce que je suis sûre que quand on me livre des bonnes choses? Est-ce que quand les cuisiniers cuisinent, est-ce que ça va être bien mangé? Est-ce que ça va apporter des nutriments de qualité? Cette démarche professionnelle m'a amenée à me rapprocher de tout le sujet agricole. Dans son ensemble. Mmh. Et j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses.
Restauration scolaire qui n'avait pas forcément bonne presse dans les années 80. Je ne sais pas si ça a évolué entre-temps, mais on disait que la cantine, ce n'était pas forcément de très bonne qualité.
C'est une réalité. C'était une réalité. Hein. Je suis contrainte de l'accepter.
Vous n'êtes pas responsable. Marie-Paul Vigier, vous, c'est par l'Afrique qu'a commencé votre engagement, puisque en 1976, vous avez passé 2 ans et demi au Togo. Expliquez-nous d'abord, vous étiez infirmière, expliquez-nous comment, voilà, qu'est-ce qui a créé cette envie d'aller en Afrique, au Togo plus particulièrement, et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience par rapport à votre engagement, c'est de là-bas qu'il est né, en tout cas, c'est là que vous avez eu le déclic.
Oui, tout à fait, même un petit peu avant, je veux dire, comme beaucoup d'enfants, que le choc de découvrir que dans certains pays, il y avait des famines, des enfants qui mouraient de faim, déjà dans mon âme d'enfant, c'était quelque chose de très injuste, et j'ai été assez rapidement, pendant mes années de collège et de lycée, je me suis tournée vers des associations qui faisaient de la récupération de médicaments, des choses comme ça, pour essayer de faire un lien avec ces pays où j'entendais parler de difficultés économiques, de difficultés alimentaires, de famine. Et donc, assez naturellement, après mon diplôme d'infirmière, c'est vrai que j'ai été tentée d'aller voir sur place, de vivre un petit peu la réalité et d'essayer de comprendre comment ça se passait, pourquoi certains pays en arrivaient là. Et donc, en arrivant comme infirmière, en effet, dans un petit village au Nord Togo, à Dapango, là, j'ai été tout de suite frappée, puisqu'il y avait énormément d'enfants qui avaient de la malnutrition, qui mouraient soit de marasme, donc de faim complète, soit de kwashiorkor, qui était une deuxième malnutrition par manque de protéines. Là, je me suis vraiment demandé, avec l'aide de tous les amis togolais qui m'entouraient, comment le pays en était arrivé là. Et j'ai entendu pour la première fois parler de ces circuits économiques, même à niveau mondial. Bon, là, c'était les pays du Nord, on ne parlait pas encore beaucoup d'Europe. Et j'ai entendu parler dans l'histoire de ce pays que cette région, qui avait beaucoup de cultures vivrières, le mil, du maïs, du millet, avait, au fil des années, et surtout pendant la colonisation, été poussée à une reconversion des sols vers la culture du coton. Le coton, on ne le mange pas. Et le coton appauvrit les sols. Par contre, il était très rentable et amenait une économie, justement, pour les décideurs de cette nouvelle conversion, amenait une économie, des bénéfices, mais qui malheureusement ne retombait pas sur les populations locales, ou très peu. Donc, j'ai déjà entendu que... En plus, j'ai oublié un détail, c'est que le prix du coton était fixé, donc cultivé par les paysans et les paysannes du pays, était fixé, donc ce prix, par les pays du Nord, avec les accords du STABEX à l'époque. Donc là, première grosse interrogation, en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette emprise du monde économique et à un niveau international? Et donc, bon, de mon niveau à moi d'infirmière, je ne pouvais pas faire grand-chose, si ce n'est essayer de faire avec ce qui était sur place, un peu d'éducation sanitaire, redonner des éléments pour que les femmes réapprennent justement à faire des repas équilibrés, pas comme Martine dans ses cantines ici, mais là-bas, avec les produits locaux, remettre un peu d'arachide ou de poisson pilé dans les bouillies pour éviter au moins ces grosses malnutritions, notamment du kwashiorkor. Et puis, bon, ben, ma vie est revenue vers la France. Et là, je suis allée pendant... Je suis mariée, j'ai eu mes enfants et j'ai vécu pendant 3 ans à Bourg-en-Bresse, une période qui m'a fait toucher du doigt les terroirs en France. Les marchés avec encore les bœufs, les petits œufs par une fermière. Enfin bon, c'était magnifique.
Un contact direct avec
voilà,
le producteur.
Cette expérience du vivant et du monde, aussi bien des agriculteurs que des consommateurs bien reliés. Donc ça, c'était super. Et puis en 85, je suis arrivée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, bon, après quelques années bien prises par l'éducation des enfants aussi, je me suis tout doucement tournée vers les années 2006-2007. J'ai rencontré les circuits courts par l'intermédiaire d'un ami. Et tout de suite, ça m'a plu parce que j'ai retrouvé justement cette cohérence de faire une économie reliée avec les producteurs et avec des qualités de produits qu'on cherchait, et puis pouvoir faire vivre justement les producteurs dans nos régions, là où je vivais.
Alors vous avez fait un saut dans le temps, de 1985, vous êtes passé à 2007, mais quand vous arrivez en 85, alors vous disiez, hein, vous êtes prise également, il y a l'éducation des enfants, il y a le travail, etc., la vie familiale, mais est-ce que vous voyez tout de suite la différence avec Bourg-en-Bresse. Il y a des marchés, hein, y a des petits trucs comme ça, mais c'est pas aussi développé. Il n'y a pas un contact aussi direct avec les producteurs, avec les agriculteurs.
Tout à fait. Alors, en attendant de retrouver ce contact avec les AMAP, dans ces années, j'ai découvert, alors pas tout à fait au début, mais assez rapidement, les débuts des cueillettes dans les fermes. Villetin a commencé assez tôt, la ferme de Gailly aussi. Enfin, il y avait des endroits où on pouvait cueillir. Et en plus, ayant des petits-enfants, donc ravie d'y aller un peu dans les fermes. Donc, j'ai découvert cette réalité aussi du terrain, du plateau. Il y avait certains lieux qui étaient intéressants. Et sinon, bah, comme tout le monde, hein, j'allais dans les petites surfaces, les moyennes surfaces, voilà, pour acheter de quoi vivre et de quoi faire les repas de chaque jour.
Alors justement, Martine Bonnet, on le disait tout à l'heure, vous avez travaillé un établissement scolaire, c'est par les cantines et par l'amélioration des cantines que vous y apportez, en tout cas que vous allez découvrir le monde agricole. Parlez-nous un petit peu de cette découverte, justement, concrètement, comment ça s'est passé? C'est vous qui contactiez directement les producteurs? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre? Vous avez échangé avec eux? Voilà, comment ça s'est fait, comment s'est faite cette rencontre? Et après, votre meilleure connaissance du monde agricole qui vous entourait?
Alors oui, dans le poste que j'occupais, j'étais en effet directement responsable des achats. Donc c'était pour moi une lourde responsabilité. Et c'est vrai que quand on cuisine pour... mon premier poste vraiment en responsabilité de restauration scolaire, je devais nourrir environ 300-400 personnes, je crois, à peu près. Donc c'est pas rien.
Par jour.
par jour scolaire. Hein, par jour scolaire. Et évidemment, ça, les quantités... à approvisionner sont quand même pas négligeables. Donc il y a des circuits d'approvisionnement qui étaient en place, mais ces circuits, dont j'ai largement profité, étaient des circuits de grande commercialisation. Ouais. Donc ça veut dire que la qualité n'était pas la priorité. C'était la quantité. Ça ne veut pas dire que la qualité était inexistante, hein, mais ce n'était pas la priorité. Et j'ai quand même constaté, tout au long de ces années, énormément de gaspillage aussi. Alors, une autre partie que je voulais mentionner, c'était le fait que très, très rapidement, je me suis aperçue, par ce gaspillage, que les élèves n'avaient pas conscience de l'importance de la diversité qu'il fallait apporter à leur alimentation. Ouais. Et donc, j'ai créé ce qu'on a appelé un peu pompeusement des commissions menus. Ouais. Et avec les élèves, puisque c'était mon objectif, c'était de travailler avec les élèves, donc nous avons concocté les menus ensemble avec des équipes pendant plusieurs années. C'était assez drôle. J'avais fait une sorte de petit jeu... avec des couleurs et des noms, enfin bon, voilà. C'est... Donc, pour certains, ça les a amenés à réfléchir. Bon, c'était un pas qui pouvait être intéressant. Ça n'a pas donné peut-être les résultats que j'escomptais, mais en tout cas, ça a été apprécié des parents d'élèves, et puis ça a sensibilisé certains. Mais ça ne résolvait pas le problème de l'approvisionnement de qualité. Ouais. Et par des engagements personnels parallèles, j'ai vraiment été amenée à essayer d'apporter une meilleure solution à cette réflexion que j'avais. Et j'ai commencé à me tourner vers le bio. Ouais. Et c'est là que je me suis aperçue que localement, on avait des gros problèmes d'approvisionnement sur pas seulement sur le bio, mais sur des aliments de qualité. Mmh. Là, vraiment, je me suis mise en lien avec le GAB, qui est le Groupement d'agriculteurs biologiques, et la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et là, vraiment, j'ai découvert toute une grande problématique de l'alimentation et de l'approvisionnement alimentaire en Île-de-France particulièrement.
Alors, merci déjà pour cette première partie d'émission, mesdames, puisque ça nous permet de comprendre en tout cas d'où vient votre engagement, puisque vous avez déjà fait, que ce soit par l'Afrique, que ce soit par la restauration scolaire, avec, vous disiez ça n'a peut-être pas apporté les résultats escomptés, mais en tout cas, vous étiez déjà dans l'engagement et vous essayez de transformer l'alimentation des élèves. On va passer du coup de cette alimentation et de cette problématique, Martine, que vous avez rencontrée, à une photographie peut-être du monde agricole local et du plateau de Saclay qui nous intéresse plus particulièrement. Ça va peut-être nous permettre de savoir qu'il n'y a pas forcément d'adéquation entre les besoins ici et ce qui est proposé sur le plateau de Saclay. Et je vous laisse justement nous présenter en quelques mots, nous faire une petite photographie de qu'est-ce qui se fait concrètement sur le plateau de Saclay, en termes de ferme, en termes de production, etc.
Alors, je voulais juste signaler une information que peut-être nos concitoyens et concitoyennes ne connaissent pas, c'est que l'Île-de-France a une histoire agricole extrêmement riche et extrêmement ancienne. Ouais. Dont nous n'avons pas forcément mémoire. Là, nous avons en Île-de-France des terroirs extrêmement riches, extrêmement diversifiés. Puisque notre bassin parisien est un bassin extrêmement fertile. Et dans le passé, puisque je peux citer des notes que j'ai prises, en 1895, j'ai trouvé le chiffre de 95% des fruits et légumes consommés en Île-de-France étaient cultivés en Île-de-France. Donc, ça montre combien l'Île-de-France peut être notre source d'approvisionnement par la richesse de ses terroirs. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a plus que le chiffre d'approvisionnement en Île-de-France en fruits et légumes est inférieur à 10%. C'est extrêmement peu à mes yeux. Mmh.
Alors concernant, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, pour parler de ce concept de résilience. Allez-y Marty.
Merci. Alors concernant le plateau de Saclay, qui, je le rappelle vraiment, est aux portes de Saint-Quentin-en-Yvelines, nos concitoyens qui se promènent et profitent de la nature le savent, il y a encore à l'heure actuelle au moins une douzaine de fermes en activité, dont la production... Et en céréales, la grande partie en céréales.
Céréales destinées à qui ?
Alors, c'est pour les majoritairement à l'exportation.
D'accord.
Alors, nous avons deux fermes qui sont en bio. La ferme Vandamme à Villiers-le-Bac et la ferme de Vincent Bailly, dont il ne reste malheureusement que 40 hectares.
Oui. Que nous avons reçu ici à Marmite FM, Christiane Vandamme et Vincent Bailly.
Nous avons des maraîchers, notamment les maraîchers bio qui ont été implantés à Magny-les-Hameaux. Ouais. Nous avons la cueillette de Villetin. Marie-Paul a mentionné l'intérêt des cueillettes. Nous avons de l'élevage, des vaches et des volailles bio chez Charles Monville. Nous avons une pépinière. Enfin bon, nous avons... Alors, là, sur le plateau, donc, il existe au moins toutes ces fermes que nos concitoyens peuvent aller visiter et pour montrer qu'il y a de la terre fertile, extrêmement fertile, sur le plateau.
Marie-Paul Vigier.
Je rajoute juste qu'il y a également, tu sais, la ferme des 100 vaches, une expérience intéressante avec un berger qui fait paître ses... brebis aussi, sur les espaces en friche du plateau. Oui. Ça fait partie quand même.
Alors justement, l'intervention de Martine Bonnet pose une question à Marie-Paul Vigier, c'est que, si je comprends bien ce que vient de dire Martine Bonnet, c'est que la plus grande partie de ce qui est produit, en tout cas, sur le plateau de Saclay, ne profite pas forcément aux habitants du plateau de Saint-Clé et à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque la plus grande partie de la production, si c'est des céréales, et qu'elles sont dirigées vers l'extérieur, vers l'exportation, et notamment pour nourrir des animaux, ça pose la question de circuit court. Alors Marie-Paul Vigée, justement, est-ce que vous pourriez d'abord nous définir ce qu'est un circuit court ? C'est vrai qu'on parle principalement en général des AMAP, mais ce ne sont pas uniquement les AMAP. Qu'est-ce qu'un circuit court ? Et quel est le lien justement entre les circuits courts et ce plateau de Saclay ? Est-ce que c'est une petite quantité seulement qui est au plateau de Saclay ? Est-ce que c'est en train d'augmenter ? Est-ce que peut-être quelque chose d'avenir ? Voilà, à vous Marie.
Oui, bien sûr. Alors du coup, les circuits courts sont nés dans les années 2000, après un audit déjà des agriculteurs qui avaient voulu se repositionner, Manuel Van Damme en avait parlé dans une interview, pour voir le sens à donner à leur production. Et plusieurs agriculteurs du plateau avaient fait cet audit et avaient récolté des réponses, aussi bien d'entreprises, aussi bien d'élus, de co-citoyens, et qui disaient que pour eux, c'était important l'agriculture, mais si ça leur revenait, s'il y avait quelque chose de leur production qui leur revenait. Cet audit était dans les années 2000. Donc, Manu Van Damme, avec ses autres collègues agriculteurs, donc ils ont reconverti une partie de leur production pour essayer d'aller vers ce nouveau sens à donner à leurs produits en créant des circuits courts, quelquefois des transformations. Et on a vu ainsi donc la conversion de, comme disait Martine, de la ferme Van Damme en bio, et en essayant en même temps de construire un fournil qui allait utiliser ce blé bio pour faire donc du pain, des brioches, des viennoiseries. Et donc ça permet tous les jours, par exemple, rien que dans leur petit village, ils ont quand même 1000 personnes qui viennent acheter le pain dans leur fournil. Enfin, ils font une cuisson de 2000 pains par jour. Et au-delà donc de cette ferme, il y a eu d'autres fermes qui se sont aussi tournées vers une organisation de leur production en circuit court, avec un système soit de vente directe à la ferme. Donc là, on a plusieurs fermes qui font cette vente directe. Donc les gens connaissent beaucoup la ferme et la boutique de Villetin. Il y en a d'autres qui vont aller faire aussi, là je citais le berger avec ses petits moutons, il fait les marchés locaux, mais c'est des fromages aussi directs de sa production, oui. Fromage de chèvre. Donc Manu Van Damme avec sa production du pain. Et donc, au-delà de ces points de vente importantes, j'oubliais aussi la ferme de Manny qui fait des points de vente localement sur leur ferme avec une boutique. Et j'en oublie certainement, et je vous prie de m'en excuser. Je pense à Charles aussi avec ses poulets et ses œufs. Il a une journée dans la semaine où il fait de la vente directe de ses poulets bio et de ses œufs.
Le jeudi.
Merci Martine. Et puis, au-delà donc, de cette vente directe, parce qu'ils ne peuvent pas y être tout le temps, ils ont quand même leur ferme à faire tourner, plusieurs ont vu venir, d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'au départ, Christiana Van Damme reflète que c'est des personnes qui étaient aussi dans ce même questionnement de vouloir manger localement, et qui sont venues les trouver, je crois qu'elle en a parlé dans son émission, oui. Des personnes du plateau, enfin ou proches, qui sont venues lui dire, mais est-ce qu'on pourrait acheter des produits chez vous. Et là, en cherchant un petit peu, ils ont découvert ce qu'étaient les AMAP qui existaient depuis les années 2000-2001, sont arrivés en France. Et l'AMAP donc, met en lien directement un système...
Alors l'AMAP, ça veut dire association...
Alors, association de maintien pour l'agriculture paysanne. Ouais. Et donc, elle organise un système de contrat entre des producteurs... et directement avec des consommateurs qui sont donc intéressés à l'achat de leurs produits. Et donc ces contrats, ce qui est original dans les AMAP, à la différence d'un petit marché, parce qu'ils pourraient très bien aller sur les marchés vendre leurs produits, ces AMAP organisent des distributions, alors souvent hebdomadaires, une fois par semaine, souvent mensuelles. Et en organisant ces distributions, elles ont également pris le soin de faire des contrats qui permettent au consommateur d'avoir l'assurance, hein, on est relié par une charte, les AMAP, l'assurance que les produits sont en culture bio, ouais, ou raisonnée, mais bien souvent bio, et donc la qualité des produits, très gustative. Et au-delà de la qualité, ils ont aussi un contrat qui réunit les deux contractants avec, pour le consommateur, l'achat en pré-vente des produits de toute une saison, de toute une année. Donc, ce qui permet aux producteurs, en recevant le contrat payé à l'avance, d'avoir dès le départ de quoi satisfaire un petit changement de matériel, d'achat de semences, de plants, et voilà, donc de bien faire tourner la production. Donc, ils ont les contrats, ils ont la qualité, et en plus, les producteurs sont reliés aussi à faire des productions en respectant l'environnement, et les animaux aussi, au mieux de tout ce qui peut être fait au jour d'aujourd'hui. Et donc, pour le consommateur, on est aussi avec cette garantie d'une approche écologique de qualité, ce que recherchent maintenant de plus en plus de personnes.
Avec un vrai engagement, hein, parce que avec les personnes qui, par exemple, vont prendre leur panier une fois par semaine et qui ont déjà payé, par exemple, ben, on sait que s'il y a, je sais pas, des intempéries ou qu'il y a des aléas météorologiques, le contrat est quand même toujours en cours. Et oui. Il y a un vrai engagement, en fait.
Alors, la charte, en effet, permet aussi de parler de solidarité. Ouais. On connaît déjà la solidarité presque naturelle et qui a été beaucoup mise en valeur entre les producteurs sur le plateau. Mais alors, les chartes, donc, dans les AMAP, on propose aussi à tous ceux qui signent ces contrats un petit accord de solidarité en cas notamment de problèmes climatiques. Et donc, si le producteur a des soucis liés à un gel précoce, à une tornade ou à quoi que ce soit lié aux conditions climatiques, ça permet au producteur d'avoir un soutien par les amatiens, d'une partie en tout cas du contrat engagé. Alors, quand c'est tout le contrat, bon, là, il y a toujours un petit peu de discussion pour voir comment faire et négocier. Il a quand même souvent des assurances, donc l'agriculteur ouais. peut aussi avoir un petit retour d'aide à un autre niveau. Mais bon, le contrat nous engage quand il y a une petite souffrance liée à des mauvaises conditions climatiques, à accepter qu'il y ait peut-être que la moitié de pommes de terre une année, et en charge, par contre, une autre année. Si le producteur a une excellente récolte, et on l'a déjà vécu, à avoir un petit peu plus de pommes de terre deux ans après, si la récolte est particulièrement abondante. Donc, voilà la clause, en effet, solidaire, hein, qui relie les AMAPiens.
Alors ça, vous parliez des AMAP, hein, il n'y a pas que les AMAP, hein, dans les circuits courts, il y a les épiceries participatives, voilà. Il y a les marchés, vous l'avez dit tout à l'heure, les ventes directes aussi, aussi à la ferme. Alors, ça peut poser également une question, hein. Combien de personnes peuvent bénéficier des circuits courts à 50 ans en Yvelines ? Est-ce que l'offre est suffisante ? Alors, je connais la réponse hein, pour le moment. Est-ce que l'offre est suffisante ? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande, déjà, suffisamment ? Et puis, est-ce que l'offre, c'est-à-dire voilà, les agriculteurs, les maraîchers, est-ce qu'ils sont suffisants dans le coin pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus importante, hein, notamment avec le Covid les confinements qui a vraiment mis en avant une envie des Saint-Quentinois, hein, mais même des Français plus généralement, d'avoir, je ne sais pas, d'être plus sur des circuits courts, d'avoir des contacts plus directs avec les producteurs. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt avéré. Mais voilà. Et puis alors, j'en profite également pour Martine qui était dans sa cantine scolaire avec le bio. Est-ce qu'elle a pu également faire venir beaucoup de bio à l'école, puisqu'il n'y en a pas forcément beaucoup par rapport aux quantités dont elle avait besoin. Il n'y en a pas forcément beaucoup dans le coin, en tout cas suffisamment, si toutes les écoles, si tous les collèges, tous les lycées voulaient se mettre au bio. Excusez-moi, la question est un peu longue.
Il y a deux parties.
Tu veux répondre sur les AMAP ?
Alors, sur les AMAP, c'est vrai que je recherchais mon petit chiffre parce qu'il a été assez impressionnant. Le plateau, ça c'est Terre et Cité avait fait une enquête et avait pu en ressortir le chiffre de 150 000 personnes qui étaient reliées directement. Alors, pas forcément qu'avec les AMAP, mais avec tous les producteurs du plateau, entre les 16 AMAP du plateau, enfin les 16 exploitations agricoles, parce qu'il n'y a pas que les AMAP, les boutiques, les EPI. Donc 150 000 personnes s'approvisionnent régulièrement sur les productions liées au plateau de Saclay.
C'est un chiffre conséquent.
C'est quand même un chiffre qui est assez important. On voit aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines, alors que moi, quand je suis arrivée, il n'y avait aucun circuit court encore d'organisé, que les AMAP ont explosé et que maintenant, dans Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a également une quinzaine d'AMAP. Donc, il y en a 5 à Guyancourt, une à Élancourt, une à La Verrière, une à Magny-les-Hameaux, 2 à Maurepas, une à Plaisir, une à Trappe, la farce à Trappe d'ailleurs, un joli nom, une à Villepreux, 2 à Voisins-le-Bretonneux. Et donc, Montigny,
je disais... À Montigny, il y en a au moins une.
Une, hein, je pense, au moins, oui, parce que là, elle n'était pas notée sur notre petit fascicule, mais on retrouve tout ça en tapant, puisqu'on est maintenant tous à regarder sur nos écrans, on peut retrouver en tapant AMAP Île-de-France ou AMAP et le nom de la commune, et vous trouvez... Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, le nom, le téléphone, le contact pour vous mettre en contact avec un réseau d'AMAP proche de chez vous. Donc là, aujourd'hui, en même pas 10 ans, on a vu exploser le nombre d'AMAP. L'AMAP n'est pas élastique puisqu'elle est liée à des producteurs qui eux-mêmes sont liés à un terrain qui est bien sûr limité. Mmh. Et donc, c'est pour ça que les nombres d'AMAP se multiplient. Et que les personnes intéressées, bien si la map est complète, elles peuvent trouver également dans un réseau qui s'appelle AMAP Île-de-France. C'est un réseau qui va aider aussi bien les citoyens qui veulent en monter, et on va les aider à voir tout ce qu'il faut faire, comment trouver les producteurs, comment organiser le système de la map près de chez eux. Et en même temps, ça permet aussi de fédérer l'ensemble des AMAP pour être aussi plus fort face à des problématiques, ce qui a été fait par exemple lors du Covid. Pendant le Covid, notre réseau Île-de-France nous a vraiment aidés en fédérant toutes les questions qu'on se posait tous. Est-ce qu'on peut continuer à aller chercher nos produits dans nos fermes? Comment on fait? Est-ce qu'il faut porter un masque? Est-ce qu'on ne prend pas de risques? Et donc, notre réseau nous a vraiment aidés et on s'est tous organisés grâce à lui à faire des distributions, bien sûr, en respectant les normes qui étaient obligatoires lors du confinement. Et il nous a permis, puisque c'était aller chercher des denrées alimentaires, comme quand on allait dans les magasins, elle nous a permis de nous organiser pour maintenir, ce qui a été très précieux, les distributions de nos AMAP.
Martine Bonnet. Et d'ailleurs, j'en profite pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. On parle bien sûr des enjeux du plateau de Saclay. Là, on est en train de parler des circuits courts, de faire une photographie un petit peu également de ce qu'il y a sur le plateau de Saclay. On arrive bien sûr bientôt aux conséquences de tous ces projets d'urbanisation sur ces circuits courts. Hein. Mais voilà, je trouvais qu'il était très important. D'ailleurs, c'est ce que Martine et Marie-Paul m'avaient dit en préparant cette émission. Il est important de savoir déjà de quoi on parle, ce que sont les circuits courts, quelle est la réalité de la production agricole sur le plateau de Saclay. Avant de venir aux conséquences, on y arrivera tout à l'heure. Martine Bonnet, c'est à vous. Oui, par rapport à la question que je vous posais sur le bio, les cantines...
Ah oui. Alors, l'introduction du bio dans les restaurations scolaires a été un combat quotidien, je vais dire. D'abord, les personnels, puisque évidemment, les premières personnes intéressées, ce sont les personnels de cuisine, notamment, pour qui cuisiner des ingrédients de ce type. Je rappelle, par exemple, qu'une viande bio est très très différente d'une viande, je vais dire, produite industriellement. Ouais. Il y a beaucoup plus d'eau dans ce type de viande. Donc, le bio entraîne des changements de pratiques pour les personnels. Évidemment, le coût des ingrédients bio fait que j'ai été amenée à racheter du vrac, c'est-à-dire les carottes pour les crudités, tout ça. Il a fallu, pour certains des personnels, redécouvrir l'épluchage. Enfin, c'est vraiment un enjeu. Il y a aussi une certaine traçabilité à respecter. Bon, ça, c'est le côté technique à l'intérieur de la cuisine. J'ai été amenée vraiment à associer le personnel à ma démarche. Sinon, elle n'aurait pas pu réussir en cuisine, mais aussi en administratif, parce que j'étais loin de faire tout, notamment dans le poste où j'étais au lycée. Donc, j'avais des collaboratrices extrêmement précieuses qui se chargeaient, elles, des approvisionnements avec les consignes que je donnais. Donc, je reprenais la main concernant le bio souvent parce qu'elles étaient plus distantes que moi de ce monde-là. Mais ça leur a demandé aussi beaucoup de travail. Donc, je tiens à souligner que cet approvisionnement était un enjeu vraiment professionnel fort dans l'établissement. Et pour le bio, les producteurs à l'époque, je vais raconter des anecdotes, ouais. Mais c'était souvent des petits producteurs, hein, c'était il y a plus de 20 ans, donc c'était vraiment des petits producteurs. Ils ne connaissaient évidemment pas le monde administratif. Il y en a, ils ne faisaient jamais de facture, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une facture. Un bon de livraison, or les cuisiniers, quand ils recevaient la marchandise, ils devaient pouvoir la vérifier, donc il leur fallait un bon de livraison. Ouais. C'est anecdotique, mais pour nous, c'était très difficile à vivre. Et puis, on a eu aussi les impondérables d'une production plus aléatoire, c'est-à-dire une commande qui n'est pas livrée. Et quand vous avez 800 personnes à nourrir le jour même et que le steak haché il n'est pas arrivé le matin, bon, eh ben, ce jour-là, les élèves, ils ont mangé des raviolis. Bon, mais c'est des choses qui me sont restées parce qu'évidemment, la déception a été forte. Mais on a continué à tenir bon de ce côté-là. Concernant notre propos d'aujourd'hui, c'est-à-dire le local... Ouais. Je dois avouer que à l'époque, je n'ai pas vraiment réussi à m'approvisionner localement, sauf peut-être en pain. Et encore, c'était du pain bio d'Île-de-France. Donc, c'était pas local, c'était Île-de-France quand même, puisque avec la FNAB avait été créé ce label pour certains pains. Mais là aussi, c'était pas simple. Tout a été très compliqué. Je pense que, j'étais pionnière à l'époque. J'espère en tout cas que pour mes collègues à l'heure actuelle, les choses sont plus fluides. Parce que nous sommes aussi encadrés par des marchés publics, dont les règles, je crois, ont permis désormais de prendre en compte la proximité. Mais, et puis je sais, alors que la loi qu'on a appelée Egalim, a introduit l'obligation de 20% d'ingrédients bio ou local de qualité dans les restaurations scolaires.
Alors justement, pour revenir à vous, à Marie-Paul Vizier, on disait que ce qui est intéressant dans les réseaux courts, c'est que c'est une demande forte des consommateurs. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, 150 000 personnes.
Oui, d'ailleurs, je reprends le chiffre parce que je me suis un petit peu trompée. Ah. C'est 350 000, j'ai sous les yeux le rapport Terrecité, que je n'avais pas regardé tout en parlant. Et c'est 350 000 clients qui viennent au point de vente donc des fermes.
D'accord.
Ou qui vont aux distributions des plateaux.
Donc, on disait que c'est un chiffre conséquent, donc il est encore plus conséquent que tout à l'heure. Donc, on disait, ce qui intéresse donc dans les réseaux courts, c'est que c'est une demande forte des consommateurs qui veulent plus de proximité, mais aussi une demande des producteurs qui sont, vous me le disiez en préparant cette émission, enfermés un petit peu dans l'économie mondiale. Voilà, ils ont des contraintes. Ils peuvent pas forcément choisir les prix des denrées ou de ce qu'ils cultivent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, Marie-Paul Vigier?
Alors, il y a en effet des producteurs qui ont été assez rapidement intéressés. Donc, on a vu la réaction déjà de la ferme de Villiers-le-Bac, la ferme de Christiana Emmanuel Vandamme, puisque d'emblée, cela permet aux producteurs qui découvrent les amas de sortir de cette économie liée au prix de l'économie mondiale. Et donc, ils arrivent à s'organiser sur leur production, fixent leur prix en essayant d'avoir un prix, on dit, au juste prix. Et ça, c'est souvent dans la charte des AMAP également, d'essayer de payer le producteur au plus près de ce que lui coûte sa production, en essayant bien sûr d'en sortir de quoi vivre aussi. Et donc, les producteurs sont, pour la plupart, ceux qui sont dans nos AMAP, beaucoup sont venus pour nous demander d'y participer. Et donc, à nous de voir, on a encore des demandes récemment, toujours dans le cadre de la charte des AMAP, hein, c'est toujours le producteur directement qui vient. Donc, quelquefois, il faut réajuster quand les demandes viennent peut-être de personnes qui transforment des produits qu'ils n'ont pas eux-mêmes produits. Et là, donc, on n'est plus dans le cadre du ZAMAP, hein, mais il existe alors là d'autres systèmes par rapport à des productions qui sont pareilles, vertueuses, enfin qui peuvent être bio-raisonnées et qui ont du goût. Et là, donc, ce n'est plus les ZAMAP. Mais dans les ZAMAP, c'est vrai qu'il y a une sécurité pour les producteurs d'avoir les productions donc, qui sont écoulées avec le contrat déjà payé à l'avance et d'avoir aussi un prix qui est bien calculé au plus près de leur système à eux d'économie du produit. Quoi.
Alors une organisation aussi, vous en parliez en préparant cette émission, qui a permis également de remettre à flot des producteurs, de sauver des situations qui étaient plutôt mal embarquées. Hein. Mmh. Vous m'aviez donné deux exemples. Ouais. Alors il y a la ferme de Sirou, si je ne dis pas de bêtises, vous allez me corriger sur la prononciation, ou bien sur nos fameux chèvres de Gapvaux. Voilà, Martine.
C'est un souvenir extrêmement émouvant, l'histoire des chèvres de Gapvaux, parce que Philippe Boscardin était notre fermier, notre chevrier à la MAP des Jardins de Cérès depuis plusieurs années, lorsqu'il nous a annoncé l'arrêt forcé de son activité. Donc, les copains-copines qui étaient en charge de la MAP, en apprenant, c'était une histoire un peu dramatique, hein, qui était en train de se dérouler, n'ont pas voulu laisser cette personne auquel ils s'étaient attachés, et avec de si bons fromages, partir comme ça. Enfin, il y avait quand même à la clé, notamment, l'euthanasie de tout le troupeau. Qui était absolument insupportable. Et donc, ses copains-copines se sont attelés à créer une structure qui s'appelle une SCI et qui, en 2 mois, a permis de récolter, je ne sais plus de mémoire, mais je crois au moins 100-150 000 euros, de manière extraordinaire pour venir permettre à Philippe et sa femme Bernadette de s'installer ailleurs, d'acheter les terres, d'acheter la ferme et d'installer le troupeau et très très rapidement être opérationnel pour nous fournir de nouveau. Et c'était très très émouvant de les entendre lors de nos assemblées générales nous remercier pour cette aide citoyenne et solidaire que nous leur avions apportée de très grand cœur. Alors, je connais moins l'histoire de la ferme des Sirou parce que je ne consomme pas leur produit. Mais c'est le même type d'histoire, c'est-à-dire que c'était des producteurs de viande qui sont en Eure-et-Loir, si je me souviens bien, et qui était en perdition, dont la production allait cesser puisqu'ils ne trouvaient pas de débouchés, que c'était de la viande bio, hein, et qui sont venus trouver notre conseil d'administration de la MAP. Et ils se sont donc mis en lien. Alors, c'est un petit peu complexe de l'approvisionnement en viande, puisqu'il y a des colis à constituer, J'ai du mal à parler de ça, mais quand on tue une bête, il faut quand même qu'elle soit consommée rapidement. Et donc, il faut des acheteurs. Donc, c'est un petit peu complexe, les contrats de viande. Mais en tout cas, les Amapiens ont répondu à l'appel. Et cette ferme a été non seulement sauvée, mais a permis à la génération suivante de diversifier la production, puisque désormais, leur fils Thomas fait de l'huile de colza et de tournesol, fait des pâtes, donc issues de leur production.
Et de la farine de sarrasin.
Et de la farine de sarrasin, merci. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement réjouissant aussi pour nous, en tant que citoyens, d'avoir participé à cette histoire magnifique.
Alors justement, on reste avec vous, Martine, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction dans l'émission. Vous avez donné un chiffre assez, est-ce qu'on peut utiliser le terme effrayant ? Peut-être effrayant, en disant qu'en 1800 et poussière,
95.
Alors il y avait 95% des fruits et légumes qui consommaient donc en Île-de-France, qui étaient produits en Île-de-France, et que maintenant c'est un petit peu moins de 10%. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement ça rejoint peut-être le concept de résilience, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept et puis nous dire, alors peut-être que ce concept, cette résilience, ça va être mise à mal avec les projets qui arrivent sur le plateau du Grand Saclay?
Alors, oui, en effet, quand j'ai pris conscience en tant que citoyenne, mangeant mes 3 repas par jour comme tout le monde, ou presque, de l'importance de mes approvisionnements, et que, en effet, je voyais bien qu'autour de moi, il y avait des productions qui ne m'alimentaient pas, vraiment, est venu à mon esprit le danger que je courais. Si je puis dire, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est pour faire comprendre que cette résilience alimentaire, la résilience étant la capacité d'un organisme à surmonter une altération de son environnement. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on manque de quelque chose ou si on subit un traumatisme, comment on arrive à trouver la solution pour continuer à vivre de manière satisfaisante. Et cette résilience alimentaire en Île-de-France, elle n'existe pas, tout simplement. Ce constat, pour moi, est assez effrayant. Je sais que la région parisienne n'a que 3 jours de stock, c'est-à-dire que si nous cessons d'être approvisionnés, en 3 jours, les magasins sont vides. Je ne sais pas si d'autres personnes se souviendront, mais nous avons vécu presque ça il y a, j'arrive pas à situer le nombre d'années, mais quand il y a eu une grève de routiers très très suivie et très importante, nous avons été vraiment au bord du précipice. On a vu aussi pendant la Covid, mais j'en ai eu un peu moins conscience, je dois l'avouer, parce que avec mon approvisionnement en circuit court, comme le décrivait Marie-Paul, j'ai été beaucoup moins impactée, puisque nos fournisseurs ont continué à nous apporter ce qu'il nous fallait. Mais 350 000 personnes qui ont été évoquées par Marie-Paul ne font pas les 12 millions de franciliens. Donc, pour moi, le concept de résilience alimentaire est au cœur de mon souci, dans le sens où il faut vraiment rapprocher les sources de production des sources de consommation. C'est important pour moi à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on ramène de la qualité à tout point de vue, de la qualité humaine, et on préserve notre environnement. Pour moi, nous sommes faits de la même nature que ce que nous mangeons. Donc, plus que nous mangeons est sain, plus nous serons sains et plus nous offrirons à nos enfants une nourriture saine et un avenir sain. Alors, il y a un chercheur qui a fait des études extrêmement intéressantes sur le concept de résilience alimentaire. Il s'appelle Stéphane Linoux. Il prend le concept de résilience alimentaire sous l'angle d'un risque majeur, c'est-à-dire une rupture, un événement qui est brutal, mais extrêmement exceptionnel. Et ce concept de risque majeur, on doit s'y préparer. Moi, j'ai aussi travaillé sur le risque majeur en tant que responsable scolaire. Il y a des démarches préparatoires extrêmement importantes à suivre de façon à se prémunir des conséquences.
Pour avoir un exemple ? Pour avoir un exemple, je ne sais pas, quand on dit un facteur vraiment, est-ce que c'est, je ne sais pas, il y a de fortes pluies
La tempête de 2000 a été un événement extrêmement fort, mais auquel on n'était pas préparé. En revanche, la résilience alimentaire, si on la prend de ce côté-là, ça va permettre d'avoir cette réflexion approfondie et de préparer le terrain, c'est-à-dire comment éviter qu'on tombe dans une carence de production ou d'approvisionnement. Imaginons, je ne veux pas tomber dans certains
scénarios catastrophiques.
Oui, voilà, mais qu'on n'arrive plus à être approvisionné en pétrole, les camions ne pourront plus nous livrer, par exemple. Donc, les cultures doivent être ramenées près de chez nous, et de façon à ce qu'on puisse s'approvisionner de manière sûre. On ne pourra pas tout garantir, mais ça sécurise quand même. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu de la part de nos responsables. Pour moi, un responsable, ça doit garantir...
Le responsable politique, vous sous-entendez, je suppose.
Oui, notamment.
Notamment.
Mais même personnellement, je dois garantir mon approvisionnement et j'ai en effet besoin pour ça que les responsables qui le permettent le fassent.
Alors, je me permets, Martine Bonnet, parce que là, c'est une révolution qu'il faudra avoir. Parce que si je reprends votre chiffre de tout à l'heure, qui a 95% des fruits et des légumes qui venaient d'Île-de-France, et que maintenant, il y en a moins de 10%, ça veut quand même dire qu'on en importe 90% et que les productions, et que les agriculteurs, et que les maraîchers qui s'occupent de ça sont à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que si on veut relocaliser... alors, je ne sais pas combien il y a de terres agricoles en Île-de-France, mais ça veut dire vraiment un changement radical de faire moins de céréales, de faire peut-être différemment et de recentraliser, de relocaliser, on dirait, si on parlait d'entreprise, de relocaliser, je ne sais pas, des milliers d'hectares de production.
Alors, c'est bien parce qu'on rejoint le sujet du plateau de Saclay.
Oui.
En effet, je tiens à souligner que la démarche de certains agriculteurs sur le plateau, justement, qui sont engagés dans leur diversification. Je ne dis pas que c'est simple, vraiment, c'est une démarche qui est en cours. Ils sont accompagnés, en effet, par l'association Terre et Cité, en essayant de cesser, par exemple, ce sont de grandes cultures céréalières, donc ils essayent d'évoluer, de ne plus faire seulement des céréales. Je sais que Christiana et Manu Vandamme ont un projet de diversification de certaines de leurs terres, donc vers peut-être du maraîchage, de l'élevage, enfin... Il y a le système qu'on ne va pas critiquer ici pendant toutes ces 50 dernières années, a obligé les agriculteurs à être presque en monoculture, ce qui est du côté environnemental une aberration. On a besoin des animaux pour fertiliser les sols, on a besoin des insectes pour apporter de la biodiversité. Enfin, on ne peut pas vivre hors sol et l'agriculture encore moins. Donc, ce retour à la diversité, de mon point de vue, permettra la résilience, peut permettre d'envisager une certaine résilience alimentaire.
Marie-Paul Lugier. Il y a d'ailleurs, là toujours avec l'appui de Terricité qui a travaillé un peu sur les chiffres, 2/3 voient des exploitations sur le plateau de Saclay qui sont engagées dans la diversification de leur activité, donc en conversion avec soit du maraîchage, de l'arboriculture ou de la transformation. Et 2/3 aussi qui vont de plus en plus vers la commercialisation des circuits courts. Donc le plateau a vraiment une histoire qui est partie d'une période de marais, après avec le drainage de terres très fertiles, comme vous l'avez entendu dans les autres émissions, et donc de l'agriculture qui est née il y a à peu près 4 siècles sur le plateau. Et maintenant, après la période industrielle et conventionnelle de grandes cultures céréalières, on voit le plateau qui, depuis entre 10-15 ans, suivant les fermes, se tourne vraiment vers les circuits courts et vers une production qui va donner aux populations qui entourent le plateau de quoi justement s'approvisionner. Donc là, c'est que du bon sens là, qui était là. Et le drame un petit peu de...
Bah justement, c'est la question que j'allais vous poser.
Voilà,
quelles vont être les conséquences justement de ces projets d'urbanisation? Alors, il y a la ligne 18 qui doit arriver.
Oui.
D'autres projets encore en cours avec beaucoup d'urbanisation, des pertes de terres agricoles.
Exactement.
Est-ce que ça met en danger à moyen ou à long terme l'existence de ces circuits courts?
Alors, vous avez déjà entendu lors d'une autre émission, Christiana parler justement de cette problématique, parce que le métro, qu'il soit enterré, là, ce serait un moindre mal, mais bon, il faut... Le pire serait vraiment qu'il y ait le morcellement des terrains, parce que le métro va faire une travée qui aura entre 70 et 75 mètres de large, va couper en parallèle à cette route qui traverse le plateau et qui était construite en sagesse par nos anciens. Les villages étaient en bordure des terres pour bien les préserver. La route les amenait et après, tout le plateau, c'était les terres. Le plateau va prendre sur ce côté des terres, déjà comme ils l'ont fait avec le nouveau quartier du Moulon. Et cette bande va complètement faire comme une barrière entre les fermes qui sont encore situées du côté donc de bordure du plateau, du côté sud, et les champs qui sont au nord. Donc obligeant, mais ça vous l'avez déjà entendu, je ne vais pas m'étaler, les agriculteurs à faire des détours, à utiliser plus donc, de frais aussi, hein, d'essence, de gasoil, perte de temps pour rejoindre et continuer à produire les mêmes champs. Donc les obligeant aussi à se reconvertir, à changer délibérément donc, de conditions d'exploitation. Donc là, c'est vraiment une vraie menace pour les circuits courts, parce qu'on voit que toutes ces fermes doivent se repositionner tellement différemment, avec surtout une grosse travée qui va traverser le plateau, qu'on ne sait plus vraiment comment ils vont pouvoir survivre si le métro se fait.
On arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, je vais vous laisser 30 secondes hein, si vous voulez ajouter un mot de conclusion. Martine Bonnet ?
Oui, je voudrais conclure sur le fait que je ne vois pas comment nos agriculteurs du plateau vont pouvoir continuer à travailler dans les conditions qui leur sont faites. Comment on peut concevoir un champ cultivé au milieu de trafic routier, trafic métro, les pollutions sonores, les pollutions de l'air, les pollutions vibratoires, hein, parce qu'un métro, faut pas croire que c'est fait de... seulement de matériel et d'une biodiversité qui va forcément s'appauvrir de plus en plus. Les organismes vivants ne vont pas supporter ce nouveau contexte. Pour moi, c'est presque de la maltraitance par rapport à nos agriculteurs. C'est un manque de respect de leurs conditions de travail, enfin de leur vie elle-même. Et cette vie, pour moi, j'en ai besoin pour vivre moi-même et puis... pour que Saint-Quentin reste une agglomération agréable, entourée de verdure, entourée de ces champs magnifiques. Moi, j'invite vraiment nos concitoyennes et concitoyens à se mobiliser pour protéger ces terres agricoles qui sont extrêmement précieuses. et pas au profit d'un métro dont on sait l'inutilité. Je veux quand même dire que je suis absolument tout à fait favorable aux transports urbains, aux transports en commun, mais pas un transport inutile et d'un coût exorbitant.
Marie-Paul Biget, pour conclure.
Alors, moi, je dirais aussi, juste une petite remarque, c'est que cette grande opération, c'est une opération d'intérêt national. Je voudrais juste redire que l'agriculture, au travers de toutes ces fermes et de tous ces hommes et ces femmes qui sont investis, c'est aussi un service d'intérêt national, d'intérêt général à l'ensemble de l'humanité, que c'est pas avec des métros qu'on va continuer à poursuivre cet effort et c'est ce temps passé à construire ce réseau de circuits courts qui justement favorise la résilience de toute cette population qui est en proximité. Donc je pense que ce service d'intérêt général, il devrait être aussi pris en compte par les décideurs, par nos responsables, que ce soit des responsables de nos agglomérations locales, plus haut par nos responsables européens, parce qu'on n'a pas parlé de ces grands décideurs au niveau de l'Europe. Ouais. Mais là aussi, il y aurait toute une émission à faire pour voir comment se répartissent les subventions. Ouais. Hein, le nouveau plan, la PAC, le nouveau PAC et tout ça, c'est vraiment très intéressant de savoir comment cela impacte sur nos agriculteurs. Et donc, moi, voilà, j'ose garder un petit espoir dans le fait que l'homme a quand même, j'espère, ce bon sens pour la plupart d'entre eux de croire que devant peut-être aussi les signes précurseurs d'une vraie crise à venir, l'homme saura trouver les vraies solutions dont certains ont déjà commencé à semer dans le plateau de Saclay notamment, qui est pour nous un précieux aide et soutien.
Une note d'espoir pour terminer. Merci beaucoup mesdames, donc Martine Bonnet et Marie-Paul Viget, pour vos témoignages et pour le travail que vous avez également réalisé sur toutes ces années, qui vous donne maintenant une véritable expertise. Merci beaucoup.
Merci Nourati.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Bien.
C'était Micro Ouvert,
présenté par Nouradine Anne.
Une chose à nous dire ? C'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.